Chapitre 2. Cependant, Harvin n'avait point tardé à se faire remarquer par son exactitude à exécuter tout ce qui lui était ordonné. Le zèle que d'autres faisaient voir par crainte, il le montrait, lui, par fierté. Sentant l'impossibilité de la résistance, il y avait renoncé dès le premier instant et s'était décidé à aller au-delà de tout ce qui serait exigé de lui. Il évitait ainsi les réprimandes ou les châtiments qui lui eussent pu cruellement rappeler sa servitude, et son obéissance même avait l'air d'une libre soumission. Cette bonne volonté lui valut la faveur de l'intendant, et le conducteur des Reda étant mort, Harvin fut choisi pour le remplacer. Cependant, Corvinus n'avait quitté Rome que par ennui. Lassé de fêtes, de luxe et de bruit, il s'était imaginé que la solitude serait pour lui une agréable nouveauté. Il avait même voulu tenter un essai fort à la mode parmi les beaux de Rome, et il s'était fait arranger dans sa splendide villa un de ces appartements tapissés de nattes et à peine meublés que l'on appelait la chambre du pauvre. Il s'y était confiné quelques jours avec un seul esclave, se nourrissant de pois chiches et de radis qu'on lui servait dans des plats de terre sabine et qu'il mangeait assis sur une escabelle à trois pieds. Mais cette vie frugale ne tarda point à le fatiguer. Le repos de la campagne lui avait fait regretter le tumulte de la ville et renonçant aux plaisirs champêtres tant vantés par les poètes citadins, il donna ordre de retourner à Rome sans attendre la froide saison. Les nouvelles fonctions d'Harvin l'obligeaient à suivre son maître dans les promenades en char qu'il faisait chaque jour hors de la ville. La voie appienne, toute bordée de tombeaux, d'arbres et de statues funéraires, était alors le rendez-vous de la société la plus élégante. On y trouvait les femmes célèbres par leur beauté, leur richesse ou leur coquetterie. Les sénateurs, enrichis par leur délation, les capteurs de testaments et les affranchis devenus les favoris de l'empereur, enfin les descendants de ces chevaliers dont la mollesse avait déshonoré le nom de Trossule, donnés à leurs ancêtres après la prise d'une ville d'Étrurie. Un jour qu'Harvin avait suivi son maître comme de coutume, un embarras força les numides qui précédaient le char à s'arrêter. C'était Metella, la célèbre matrone, qui passait précédée et suivie d'un peuple entier d'esclaves. Elle était à demi étendue dans une litière, le coude gauche appuyé sur un coussin de laine des Gaules, la tête ornée d'un voile si léger que chaque souffle du vent semblait près de l'emporter, et ses cheveux noirs ruisselants de perles fines. Pour combattre la chaleur qui était accablante, elle tenait à chaque main une boule de cristal et autour de son cou découvert s'enlaçait un serpent apprivoisé. Deux coureurs africains portant une ceinture de toile d'Égypte d'une blancheur éclatante et des bracelets d'argent précédaient sa litière. Ils étaient suivis d'une jeune esclave qui ombrageait le visage de Metella avec une palme ornée de plumes de paon et fixée au bout d'un roseau des Indes. À côté marchaient des Liburniens, portant un marchepied incrusté d'ivoire pour descendre de la litière. Enfin derrière venaient près de 100 esclaves richement vêtus. Après avoir regardé un instant ce splendide cortège, Harvin détourna les yeux avec indifférence. Depuis qu'il fréquentait la voie appienne, l'habitude l'avait blasé sur les prodiges du luxe romain. Les esclaves, formant la suite de la matrone, étaient déjà passés presque tous, et les numides de Corvinus avaient repris leur course. Le jeune Celte allait les suivre, lorsqu'un cri se fit entendre à quelques pas. Harvin détourna vivement la tête Une femme s'était séparée du cortège de Metella et tendait les bras vers lui. « Ma mère !» s'écria l'enfant en laissant tomber les rênes. Les mules, ne se sentant plus retenues, partirent au galop. Arvin s'élança vainement pour les retenir. Tous ses efforts ne firent qu'accélérer leur course. Enfin, désespérant de ressaisir les guides, il s'élança hors du char et regarda autour de lui. Il était déjà loin de l'endroit où il avait aperçu Norva. Il courut pour la rejoindre, mais des cavaliers qui cherchaient à le dépasser et de nouveaux cortèges l'arrêtèrent. L'enfant éperdu se précipita entre les chevaux et les équipages, recevant des coups et des injures sans s'en apercevoir. Il parcourut la voie appienne jusqu'aux portes, mais ce fut en vain. Metella était rentré à Rome avec sa suite. Arvin eut d'abord un mouvement de désespoir impossible à dire. Cependant, il se rassura bientôt en songeant qu'il lui serait facile de retrouver Norva, puisqu'il avait entendu prononcer le nom de sa maîtresse. Il délibérait déjà sur les moyens de connaître la demeure de Metella, lorsqu'un des coureurs de Corvinus le rejoignit et lui ordonna de venir reprendre les rênes du char. Arvas obéit après un moment d'hésitation. Le jeune patricien, qui avait été forcé d'attendre, ne lui adressa aucun reproche. Mais à peine fut-il de retour qu'il fit signe à son intendant. Ardun n'en comprit pas la signification qu'en voyant paraître avec la fourche l'esclave chargé des supplices. Il poussa une exclamation de surprise et devint pâle. Le correcteur sourit. « Eh bien, petit, dit-il, oh, tu m'arrives donc enfin. Tu t'es bien difficilement décidé à faire ma connaissance. Du reste, le maître est trop bon. Il se contente de plaisanter avec toi. Par Hercule, oh, si tu avais été l'esclave de la franchise, il t'eût fait manger au lamproie. » En parlant ainsi, le correcteur avait fixé la fourche à la poitrine et aux épaules d'Arvin. Il attacha ses bras aux deux extrémités qui dépassaient et enchaîna l'enfant à un poteau placé près de l'entrée. Le regardant alors avec un rire féroce, « Mettez-vous alors en excellente position pour prendre l'air, dit-il. La nuit va venir, tu pourras étudier les étoiles. » À ces mots, il fit un signe d'adieu à Arvin et disparut. Celui-ci avait gardé le silence. Son corps était resté droit, sa tête fièrement levée, ses regards dédaigneux. Mais au fond de son cœur grondait un orage de douleur et de colère. Dans ce moment, il eut accepté tous les supplices avec joie, à condition de les voir partagés par Corvinus. Le souvenir de sa mère venait encore augmenter sa rage. Sans le châtiment honteux qui lui était infligé, il l'aurait déjà retrouvé. Il la serrait maintenant dans ses bras. Elle l'attendait sans doute, et accusait peut-être son retard. Il était tout entier à son désespoir lorsqu'il entendit son nom répété à quelques pas. Tout son sang s'arrêta. Il avait cru reconnaître cette voix. Il détourna la tête. Une femme s'élança vers lui. C'était Norva. Arvin fit un moment sans rien voir, sans rien entendre, et comme évanoui de joie dans les bras de sa mère. Jamais si grande émotion n'avait remué ce jeune cœur. Quant à Norva, elle était folle de bonheur. Elle riait et sanglotait à la fois, battant des mains comme un enfant et couvrant son fils de baisers. Ce premier délire de tendresse apaisé, Arvin fit connaître le motif du châtiment qu'il subissait. En apprenant qu'elle en était la cause involontaire, la pauvre mère recommença ses caresses et ses pleurs. L'enfant s'efforça de la consoler. La joie de la voir avait complètement éteint son indignation. Il ne songeait plus à la fourche ni aux chaînes qui le garrottaient. Il eût consenti à demeurer ainsi pendant sa vie entière, pourvu qu'il pût voir près de lui sa mère et recevoir ses embrassements. Norva s'assit à ses pieds et lui raconta à son tour comment, après avoir appris le nom et la demeure de son maître, elle avait fui de chez Metella sans songer à autre chose qu'à trouver le palais de Corvinus pour le revoir. Elle l'interrogea sur tout ce qu'avait fait, tout ce qu'il avait pensé pendant cette longue année de séparation. Quant à elle, elle avait épuisé les plus poignantes tortures de la servitude. Sans pitié, comme toutes les femmes uniquement occupées de leur beauté, Metella se vengeait sur ses esclaves de la moindre blessure faite dans le monde à sa vanité. Ses ennuis de moment, ses impatiences, ses caprices se manifestaient toujours par quelques punitions cruelles infligées à ceux qui la servaient. Elle trouvait alors une sorte de volupté farouche à les voir souffrir sous ses yeux. À la plus légère négligence, elle les forçait de se mettre à genoux et de se gonfler la joue afin qu'il eût plus de facilité à les frapper au visage. Morgan, acheté par elle en même temps que Norva, avait déjà passé 3 fois par les lanières pour avoir refusé de se soumettre à cette humiliation. En écoutant ce récit, Arvin fut forcé de reconnaître que le hasard l'avait encore favorisé en le faisant l'esclave du sibaryte Corvinus. Cependant, Nafel venait d'apprendre la punition à laquelle Arvin avait été condamné. Il profita d'une visite du maître à sa bibliothèque pour solliciter la grâce de l'enfant. Corvinus fit signe qu'il l'accordait, et le jeune Celte fut délivré de ses entraves. Il put alors conduire sa mère dans un lieu écarté, où tous deux reprirent leur entretien avec plus de liberté. Pendant quelques heures, Norva et son fils oublièrent complètement leur situation. Ils parlaient de l'armorique dans la langue du pays. Ils rappelaient les circonstances de leur vie passée, les noms de ceux qu'ils avaient connus, les lieux où ils avaient été heureux. Arvin retrouvait l'accent, le geste, la poésie et les croyances auxquelles son enfance avait été accoutumée. Il n'était plus à Rome, plus esclave. C'était l'enfant du grand chef Menru, assis au foyer de sa mère et apprenant d'elle les traditions de son peuple. La nuit arriva sans que Morvan ni son fils s'en aperçussent. Les yeux levés vers ce ciel bleu d'Italie, tout parsemé de brillantes étoiles, ils continuèrent à s'entretenir de la patrie absente, sans prendre garde à la fuite des heures. Arvin confia à sa mère son espoir d'affranchissement. Morgan nous parle aussi de délivrance, dit Norva, mais c'est avec du fer, non avec de l'or, qu'il compte l'obtenir. Songerait-on à une révolte? Demanda vivement Arvin. Oui, je le crains, répondit Norva. Morgan entretient des intelligences avec les esclaves de notre nation. La plupart ont employé leur pécule à acheter secrètement des armes, et à la première occasion, ils peuvent jeter les cris de guerre. Les Daces et les Germains complotent aussi mystérieusement, et j'entends rappeler sans cesse tout bas le nom de Spartacus. Les yeux d'Arvin s'allumèrent. Norva s'en aperçut, et saisissant avec une tendresse inquiète la main de l'enfant, « Rappelle-toi que tu es trop jeune pour te mêler à une pareille entreprise, » dit-elle. « Mais j'ai 15 ans, » répliqua Arvin avec impatience. « Mais tu n'as point l'âge des guerriers, tu le sais. pour soutenir le grand nom que tu portes. Il faut des bras plus exercés et plus forts. Morgan l'a dit, et moi je te défends de prendre part à cette révolte.
J'obéirai, ma mère, répondit Arvin, d'une voix sourde et les yeux gonflés de larmes.
Norva tira sa tête sur ses genoux, avec cette caressante compassion des mères, et le baisant au front. Ne te chagrine pas, enfant, reprit-elle. Tu arriveras à l'âge d'homme, et alors je n'aurai plus aucun pouvoir sur toi. Tu seras maître de choisir un champ de bataille où tu voudras. Mais d'ici là, laisse-moi user de mon autorité pour préserver ta vie. Que je puisse jouir de ces dernières joies de la mère qui sent que son fils va sortir de l'enfance et lui échapper. Hélas, bientôt tu ne seras plus à moi. Tu appartiendras à tes passions, à ta volonté, à une autre femme peut-être. Ne me regrette pas ces dernières heures de royauté, et ne te révolte pas contre la tendre tyrannie de celle qui t'a donné le jour. Aujourd'hui, je berce encore l'enfant dans mes bras. Demain, ce sera un homme. Je ne serai plus mère qu'à moitié, car je ne pourrai plus le protéger. Norva avait prononcé ces mots avec une voix si triste et si douce qu'Arvin en fut attendri. Il la serra sur son cœur en l'appelant des noms les plus tendres et lui promit de se soumettre sans regret à tous ses désirs. La nuit s'était écoulée dans ces intimes causeries. Le soleil était de retour. Norma songea enfin à retourner chez sa maîtresse. L'enfant demanda et obtint la permission de l'accompagner. Tous deux descendaient le mont Célius lorsqu'ils aperçurent une troupe d'esclaves conduite par un affranchi. À leur aspect, Norma s'arrêta saisie. Ce sont les familiers de Metella, dit-elle. Les esclaves venaient de reconnaître la mère d'Arvin. Ils coururent à elle et l'entourèrent. « Enfin, te voilà reprise !» dit la franchie. « Mais que voulez-vous dire ?» s'écria Norva. « Mais n'as-tu pas fui de chez ta maîtresse ?»«
J'y retournais. »
La franchie éclata de rire. « Oh, tous les esclaves échappés en disent autant, » fit-il observer. « Allez, qu'on lui lie les mains et qu'on l'emmène. » Norva voulut s'expliquer, mais on lui imposa silence. Arvin ne réussit pas mieux à se faire entendre, et l'on entraîna sa mère malgré ses efforts.
« Mais qu'allez-vous faire ?» demanda l'enfant effrayé.
« Mais ne sais-tu pas ce qui attend les esclaves fugitifs ?» De peur qu'ils ne se perdent une seconde fois, on les marque d'un fer rouge au front. Arvin poussa un cri. « Oh, c'est impossible, dit-il. Je verrai votre maîtresse. Je me jetterai à ses pieds. »« Bon, si tu la fatigues, elle t'infligera le même supplice, » interrompit la franchie.
« À moi !» s'écria l'enfant.
Mais le peu, oui, en payant encore Vinus le tort qu'elle lui aura fait. Oublies-tu qu'un esclave n'est autre chose qu'un vase de prix? Si on le fêle ou si on le casse, on en dénoménage le maître et tout est dit.
Non, laisse-moi, laisse-moi, s'écria la mère épouvantée.
Mais Arvin ne l'écoutait pas. Ils arrivèrent tous ensemble à la demeure de Metella. La matrone n'était point encore rentrée. On avertit l'intendant, qui vint savoir de quoi il s'agissait. Arvin voulut essayer la prière, il fut repoussé rudement.
« Mais n'est-il donc aucun moyen de sauver ma mère ?» demanda l'enfant désespéré.
« Achète-la !» répondit l'intendant avec ironie.
« L'acheter ?» répéta Arvin. « Mais un esclave, peut-il en acheter un autre ? Alors ne sais-tu donc pas ce que c'est qu'un vicaire ?
L'enfant se rappela en effet que quelques-uns de ses compagnons avaient, sous leurs ordres, des esclaves auxquels ils laissaient faire les travaux les plus rudes et les plus grossiers. Mais il ignorait qu'ils eussent été achetés de leur pécule.
« Mais que faudra-t-il pour délivrer ma mère ? » demanda-t-il en tremblant.
« 3 000 sesterces. » L'enfant joignit les mains avec désolation.
« Je n'en ai que 2 000, » murmura-t-il.
Mais un espoir traversa tout à coup sa pensée. Beaucoup de ses compagnons avaient un pécule. Ils ne refuseraient point sans doute de lui prêter chacun quelques as, et il pourrait peut-être réunir ainsi ce qui lui manquait. Il courut à l'attendant qui se retirait.
« Je reviendrai bientôt avec les 3 000 sesterces, » dit-il d'une voix suppliante. « Promettez-moi seulement de suspendre le châtiment. »«
Je te donne jusqu'à la 4e heure. » Arvin le remercia, embrassa sa mère en pleurant et partit. Il courut d'abord chercher son pécule qu'il compta de nouveau. Il lui manquait bien 1 000 sesterces pour compléter la somme demandée. Il descendit à l'appartement des esclaves afin d'implorer leur secours. Mais il n'en trouva aucun. Tout était en rumeur dans la maison de Corvinus. Poursuivi par le fédérateur, dont les prêts usuraires avaient hâté sa ruine, le jeune patricien venait de quitter sa demeure que les gens de justice avaient envahie. Des écriteaux portant copie de l'édit du magistrat et annonçant la vente de tout ce qui lui avait appartenu étaient déjà suspendus au-dessus du seuil. Les administrateurs du trésor de Saturne, qui devaient présider à l'encan, venaient d'arriver ainsi que l'argentier chargé de recevoir le prix des objets. On achevait l'inventaire des biens de Corvinus. Et ce fut dans ce moment qu'Arvin se présenta, son argent à la main. Un des créanciers délégué par les autres pour présider à la vente l'aperçut.
« Que portes-tu là ? » demanda-t-il à l'enfant.
« Mon pécule, » répondit Arvin.
« Et à combien s'élève-t-il ? »
« À 2 000 sesterces. »«
Ah, ils aideront à la liquidation de Corvinus, » dit le Romain, qui étendit la main vers le vase dans lequel Arvin avait déposé ses économies.
« Mais cet argent m'appartient !» s'écria l'enfant en s'efforçant de le défendre.
« Mais il appartient à ton maître, esclave, » répondit le créancier. « Tu ne possèdes rien en propre. » Pas même ta vie. Livre donc ces 2 000 sesterces, ou prends garde aux lanières.
Oh, jamais, jamais, s'écria Arvin en pressant son trésor contre sa poitrine. Ce pécule, je l'ai économisé sur ma faim et sur mon sommeil. Il est destiné à racheter ma mère. Ma mère subit aujourd'hui le supplice des fugitifs si je n'apporte à sa maîtresse 3 000 sesterces. « Oh, ne m'enlevez pas cet argent, citoyen. Si vous ne me laissez point par justice, que ce soit par pitié. Vous avez des mères aussi. Grâce, grâce, je vous en prie à genoux. »
Le jeune Celte était tombé aux pieds des trésoriers de Saturne et du créancier. Celui-ci haussa les épaules et fit signe aux héros chargés d'annoncer la vente. Ils s'approchèrent d'Arvin et essayèrent de lui arracher les 2 000 sesterces. L'enfant se débattait avec des menaces et des cris de fureur. Mais, trop faible pour résister à des hommes, il fut bientôt dépouillé. Il se releva couvert de poussière et fou de rage. Ses yeux cherchaient une arme dont il pût se servir. Les héros le saisirent en riant, le lancèrent hors de la cour et refermèrent la porte. Arvin frappa avec fureur sa tête de ses 2 poings, comme s'il eût voulu se punir lui-même de son impuissance.
Dans ce moment, une main se posa légèrement sur son épaule. Il se détourna. C'était Nafel.
« Qu'as-tu, enfant ? » demanda-t-il.
« Ma mère ! »
s'écria Arvin, dont la voix étouffée par la colère et les sanglots ne put faire entendre que ce mot. L'Arménien tâcha de l'apaiser par quelques douces paroles et lui fit raconter ce qui venait d'arriver.
« Console-toi, dit l'Arménien, mon péculabois n'a point été saisi. Il renferme 4 000 sesterces et je te le donne. »
Arvin recula de surprise, n'osant en croire ses oreilles.
« Viens, ajouta Nafel, je l'ai déposé chez un frère de la voix suburane. Nous allons lui redemander. »
Le jeune Celte voulut balbutier un remerciement, mais l'Arménien lui imposa silence.
« Le service que l'on peut rendre tourne bien plus au profit du préfiataire que de l'obliger, dit-il, car celui-ci ne reçoit qu'un secours terrestre et passager, tandis que l'autre acquiert un droit à des félicités éternelles. Ne me remercie donc pas et suis-moi. »
Tous deux se rendirent chez le dépositaire, mais il était absent. Il fallut attendre assez longtemps. L'angoisse d'Arvin était horrible. Il tremblait d'arriver trop tard. Enfin, le juif qui gardait le pécule de Nafel rentra. Les 4 000 sesterces furent livrés au jeune Celte, qui se dirigea en courant vers la demeure de Metella. En passant devant la basilique de Julia, il leva la tête. La clepside marquait la 4e heure. Arvin se sentit froid jusqu'au cœur. Il reprit sa course d'un élan désespéré, traversa le forum et aperçut enfin la porte de Metella. Au moment où il atteignait le seuil, un cri horrible retentit. L'enfant s'appuya au mur en chancelant. « Tu arrives trop tard, » dit Morgan, qui l'attendait à l'entrée.
« Où est ma mère? Où est-elle ? » cria Arvin.
Le vieux Celte le prit par la main sans répondre et l'entraîna vers la cour. Elle était pleine d'esclaves qui parlaient à demi-voix. Au milieu, le correcteur se tenait debout près d'un réchaud allumé. Norma était accroupie à ses pieds. Arvin se précipita vers elle en étendant ses bras. Mais à peine l'eut-il aperçu qu'il poussa un cri d'horreur. Un nuage couvrit ses yeux, ses jambes se dérobèrent sous lui, et il tomba évanoui près de sa mère. 2 heures après, Norva était étendue mourante sur la nappe qui lui servait de couche, ses deux mains posées dans celles de son fils, dont elle murmurait encore le nom. Morgan, la tête basse et les bras croisés, se tenait debout au chevet. La pauvre mère, qui sentait près d'elle Arvin, retenait ses plaintes et tâchait par instants de lui sourire. Mais ce sourire même glaçait le cœur. Son front avait été enveloppé d'une toile de lin à travers laquelle suintait un sang noirci. Ses paupières, gonflées par la douleur, ne pouvaient plus s'ouvrir, et son haleine sortait avec un sifflement funeste de ses lèvres déjà blanchies. Arvin, abîmé dans son désespoir, retenait ses sanglots, de peur d'ajouter aux souffrances de sa mère. Mais les quelques heures qui venaient de s'écouler avaient sillonné son visage de traces aussi profondes qu'une longue maladie. Penché sur la couche de Norva, il observait d'un œil épouvanté chacun de ses mouvements, interrogeait sa pâleur, écoutait sa respiration haletante. Tout à coup, elle étendit les bras et fit un effort pour se redresser.
Arvin, balbutia-t-elle, où es-tu? Tes mains, oh, je ne sens plus tes mains. Oh, serre-moi sur ton cœur. Ne me quitte pas, Arvin, pauvre enfant.
Sa tête retomba sur l'épaule de son fils. Il eut un instant de terrible silence. Arvin éperdu n'osait regarder.
Ma mère, répéta-t-il enfin d'une voix étranglée.
Elle a rejoint Menru, murmura Morgan. L'enfant releva brusquement la tête de Norva, mais cette tête retomba en arrière insensible et inanimée. Il était orphelin. Nous n'essaierons point de dire son désespoir. Dans le premier instant, il effraya Morgan lui-même. L'enfant avait éprouvé depuis la veille tant d'émotions que ses forces étaient épuisées. Une fièvre brûlante le dévorait. Il sentit sa tête s'égarer, et pendant quelques heures, sa douleur fut du délire. Enfin, l'épuisement ramena un peu de calme dans son âme. Morgan, qui ne l'avait point quitté, en profita pour le rappeler au courage.
« Ils ont tué ta mère, » dit-il à voix basse. « La pleurer est inutile. Songeons plutôt à la venger. »«
La venger, » répéta Arvin. « Ah, mais que faut-il faire ?»«
Retrouver des forces pour me suivre, quand le moment sera venu. »
Le jeune Celte se leva d'un bond.
« Allons, » dit-il. « Oh, il faut encore attendre, » répondit le vieillard. « Mais ne crains rien, pourrait-on retarder, la vengeance n'en sera pas moins terrible. »
Il développa alors à Arvin le plan des esclaves. C'était à Rome même que la révolte devait éclater. L'ordre était de livrer la ville aux flammes et d'égorger tout ce que le feu aurait épargné. L'enfant écoutait avec une joie farouche ces détails qui promettaient une pleine satisfaction à sa haine. Élevé dans les idées de sa nation, il croyait fermement que ces sanglants sacrifices devaient réjouir les mânes de Norva. Faire couler le sang romain, c'était donc prouver sa tendresse à la morte. Il ne voyait pas dans la vengeance une joie personnelle, mais un devoir et une sainte expiation. La pensée de satisfaire ainsi aux mânes de sa mère lui rendit des forces. Il refoula en lui sa douleur et attendit avec impatience le signal. Il fut enfin donné. Les esclaves s'élancèrent sur le forum des torches à la main, mais les consuls avaient été avertis. Des mesures étaient prises, et les révoltés se virent presque aussitôt entourés. La plupart jetèrent leurs armes et cherchèrent leur salut dans la fuite. Quelques Germains et quelques Celtes, parmi lesquels se trouvaient Morgan et Arvin, essayèrent seuls de résister. Écrasés par le nombre, tous tombèrent frappés par devant et entourés de cadavres ennemis. Morgan et Arvin furent relevés mourants de cette sanglante couche. Comme on espérait obtenir d'eux quelque utile révélation, ils furent déposés dans des cachots séparés où l'on pansa leurs blessures. Tous deux revinrent à la vie, mais l'interrogatoire ni les tortures ne leur firent trahir leurs complices. Les bourreaux durent s'avouer vaincus, et les deux armoricains furent jetés dans la prison commune où l'on déposait les victimes destinées aux bêtes. Lorsqu'Arvin et Morgan se revirent, ils se tendirent la main sans se parler et s'assirent l'un près de l'autre. Tous deux avaient été trompés dans leur dernier espoir, et ils allaient mourir vaincus. Il y eut un assez long silence.
ma mère ne sera pas vengée, dit enfin Arvin d'un air sombre.
Mais nos dieux ne l'ont pas voulu,
répondit Morgan.
Mais qu'est-ce donc que tes dieux? Répliqua amèrement le fils de Norva. Ils ne peuvent ni nous défendre au foyer, ni nous protéger dans l'esclavage. Pourquoi les adorons-nous s'ils manquent de puissance? Et s'ils en ont, pourquoi nous abandonnent-ils? Les dieux de Rome sont les seuls vrais, car ils sont les seuls qui conservent les libertés.
Invoquons-les-le alors, dit Morgan dédaigneusement. Crois-tu qu'ils entendent la voix d'un esclave? Mais ils n'accordent leur faveur qu'au maître. Pour nous, qu'ils livrent aux Romains, ce ne sont pas des dieux, mais des ennemis.
Ainsi, reprit le jeune Celte, le monde entier n'existera désormais que pour être la bête de somme d'une seule ville. Oh, mais pourquoi naître alors? Pourquoi ne pas égorger par pitié l'enfant qui ouvre ses yeux à la lumière du jour? Quel mauvais génie a donc fait la terre, si elle doit être pour jamais abandonnée à l'injustice et à la servitude?
Le règne de la paix et de la liberté approche, dit une voix douce. Arvin, étonné, releva la tête. C'était Nafel.
Vous ici? S'écria-t-il. Mais avez-vous donc aussi conspiré contre les oppresseurs?
Non, répondit l'Arménien. Ils m'ont condamné aux bêtes uniquement parce que j'adorais Dieu tel que vous le désiriez tout à l'heure.
Que voulez-vous dire?
Je suis chrétien.
Arvin regarda Nafel avec curiosité.
Il avait plusieurs fois entendu prononcer ce nom de chrétien avec mépris. C'était, disait-on, la religion des criminels et des misérables. Une fable venue de Judée qui avait séduit les derniers du peuple, comme tout ce qui est de nouveau.
Mais si ton Dieu est bon, dit le fils de Norva, il est donc sans puissance, puisqu'il vous abandonne à vos ennemis.
Mon Dieu même, répondit Nafel. Il veut servir de moi pour soutenir sa loi. Chaque fidèle qui meurt féconde de son sang la croyance nouvelle. À force de voir tomber les martyrs, en les entendant crier « Je suis chrétien !» on se demandera ce que signifie ce mot qui apprend aux hommes à mourir sans regret et en pardonnant à leurs bourreaux.
« Et que veut-il dire ?» demanda Arvin.
Il veut dire que l'on croit au seul vrai Dieu, à celui qui a fait la terre pour les hommes et les hommes pour qu'ils vivent comme des frères. Toutes les fausses divinités qui se partagent maintenant l'adoration tomberont bientôt, car elles ne sont que les symboles des passions humaines. Il ne restera que le Dieu qui est à tous comme le soleil.
Et qu'ordonne sa loi? Demanda Arvin.
La liberté et la fraternité entre les hommes, le bonheur de tous et le dévouement de chacun. Les plus saints à ses yeux ne sont pas les heureux, mais ceux qui souffrent. Elle vient pour détruire la violence et briser les fers, non par la révolte, mais par la persuasion. Un jour arrivera, oh, il n'est pas loin peut-être, où l'égalité des hommes sera proclamée. Car le christianisme, ce n'est pas seulement une croyance, c'est la loi humaine, l'esprit de l'avenir, c'est une nouvelle ère annoncée au monde.
Et nous ne la verrons pas, dit le fils de Norva.
Qu'importe, la terre n'est qu'un lieu de passage. Même réformée par la loi du Christ, elle sera seulement l'ombre d'un monde meilleur où chacun sera récompensé selon ses œuvres.
Et qui nous ouvre ce monde? Demanda Arvin.
La mort, répondit Nafel.
Arvin garda un instant le silence. Les paroles de l'Arménien l'avaient profondément ému. Il apercevait des éclairs d'une lumière inattendue et entrevoyait mille horizons nouveaux.
Jamais idée si grande, si belle, si consolante n'avait été offerte à son esprit. Il comparait cette religion fondée sur l'équité et l'amour aux barbares enseignements de Morgan et l'impuissance de ces dieux qui le laissaient sans consolation dans son abîme à la générosité de celui des chrétiens qui, pour le dédommager de la vie, lui montrait au-delà du tombeau une existence éternelle où le règne de l'équité commençait. Ainsi, reprit-il après une longue réflexion, ta croyance, Nafel, établit ici-bas une loi de justice et de vérité. Et comme toute œuvre humaine est imparfaite, elle promet une autre vie où les iniquités seront réparées, les coupables punis, les affligés consolés. Là se donnera sans doute sa perfection, ce que la loi du Christ ne peut établir qu'imparfaitement parmi les hommes. Et l'existence du ciel continuera et redressera l'existence de la terre. Oui, dit l'Arménien, et c'est à nous autres qui avons connu la vérité de la confesser en face de tous et d'annoncer, en tombant dans le cirque, cette bonne nouvelle au genre humain. Nafel, s'écria Arvin en se levant, je veux mourir chrétien. Quelques jours après, des écriteaux suspendus à tous les édifices publics annonçaient le spectacle donné par l'empereur au peuple romain. La foule se précipitait vers le cirque et en envahissait insensiblement les gradins comme une marée montante. Des esclaves, le râteau à la main, égalisaient la reine poudreuse, tandis que les bestiaires, têtes nues et vêtues seulement de leurs tuniques, sans manches, se promenaient lentement devant les caves. Les condamnés furent amenés. Ils étaient près de 200. Au premier rang marchaient Nafel et Arvin. Morgan les suivait, le front levé et l'œil tranquille. En passant devant la loge de l'empereur, tous s'inclinèrent en répétant, selon l'usage, Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Ils arrivèrent au milieu du cirque où on les débarrassa de leurs liens. Puis les licteurs se retirèrent avec les esclaves et les bestiaires. Il y eut alors un grand silence d'attente. Toutes les têtes s'étaient avancées, tous les yeux se tenaient fixés sur la reine. Dans ce moment, Nafel prit la main d'Arvin et d'une voix forte. « Romain ! » s'écria-t-il. « Le Dieu des chrétiens est le seul vrai Dieu. Moi et cet enfant, nous mourrons en confessant son nom. » Il n'avait point achevé qu'on entendit 1000 rugissements s'élever à la fois. Toutes les caves venaient d'être ouvertes et les bêtes s'élançaient dans l'arène. La plupart des condamnés se dispersèrent. Arvin et Nafel tombèrent à genoux, les mains levées vers le ciel. Alors commença une mêlée horrible. Mais la poussière qui s'élevait ne tarda pas à l'envelopper comme un nuage. On entrevit seulement des hommes qui fuyaient. On entendit des cris, de longs rugissements, puis insensiblement tout s'éteignit, et quand le nuage fut dissipé, on n'aperçut plus que les ours, les tigres, les lions, accroupis, le ventre dans le sang et qui achevaient de ronger des cadavres.